Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
De toute façon, tu dois savoir où il est parce qu'il y a des caméras partout à l'Open d'Australie. Justement, les GG cette semaine, ce qui nous a marqué, ce sont les déclarations autour de ces caméras à l'Open de Melbourne, trop présentes selon certains joueurs et joueuses. La première à s'en être plainte, c'est l'américaine Coco Gauff, qui a cherché un endroit tranquille pour casser sa raquette après son élimination. Raté, la séquence en fait a été filmée, diffusée, a fait le buzz. Sommes-nous des joueurs de tennis ou sommes-nous plutôt comme des animaux dans un zoo ? C'est indigné Iga Swiatek, la numéro 2 mondiale, qui se demande si un jour elles seront suivies jusqu'aux toilettes. Novak Djokovic s'est dit surpris qu'il n'y ait pas encore de caméra sous la douche. Le Serbe est réaliste en fait, il a dit ça. On vit dans une société où le contenu est roi, donc si c'est un débat plus profond, j'ai du mal à imaginer que la tendance s'inverse et qu'on supprime les caméras. Si on regarde la situation actuelle, il y en aura toujours plus. Déjà, j'aimerais qu'on parle de ça ce matin à travers vos expériences, qu'on parle du poids des caméras, à quel point c'est pesant, à quel point on fait avec, on apprend à faire avec ce qu'on accepte et ce que l'on refuse. Marc, j'aimerais qu'on commence par toi parce Non mais j'ai tout de suite eu les images, oui. Par exemple des caméras de France Télévisions qui
la série Netflix
qui était au cœur des Tours de France que vous avez fait avec Thibaut Pinot notamment dernièrement. Le poids des caméras déjà, comment toi tu appréhendes ça? Tu joues avec ça? Tu fais attention?
Oui, on fait attention. Après, le truc pour moi, enfin, il me semble assez simple, c'est d'avoir en permanence conscience de la présence du micro ou de la caméra. Le grand danger quand on est dans ce type de reportage, c'est d'oublier le micro et la caméra. Et plus le temps passe, plus on a tendance à oublier facilement. Et
c'est là que ça peut être
dangereux ou difficile. Après, le fait qu'il y ait une caméra ou un micro, si on juge utile, qu'on en a besoin pour faire passer un message ou une image, faut pas hésiter à s'en servir.
Quand ces images qui ont fait le tour du monde, on te voit devant un écran de télévision, il y a Thibaut qui est en train de réaliser un truc. Tu es grand.
Non mais j'avais rien là.
Là tu sais pas.
Ah non,
tu sais
j'avais
pas
rien. J'étais pas dans le cadre Netflix ou autre.
Non, tu étais dans le cadre du Tour de France, donc il y a
des caméras partout. Oui, mais ça s'est fait par hasard en fait la situation. La situation s'est créée par hasard. Donc non, là sur ce coup-là,
tu joues pas la comédie.
Non, c'est le
vrai Madio qu'on a là.
Oui, j'étais tout seul. En fait, sur cette séquence-là avec Thibaut, j'avais la même attitude devant un poste de télévision au bord de la route sur le Tour de France que si j'avais été dans mon canapé à la maison. Ouais.
D'accord. Voilà. Rapidement, avant de poursuivre le vestiaire, Eric Salio, un set partout en finale de l'Open d'Australie entre Sabalenka et Rybakina, c'est ça?
Ouais, absolument. Un set partout parce que Sabalenka vient de prendre le service de Rybakina blanc, donc à 0-40. On sentait venir que Rina augmentait la pression et la Kazakhstanaise donc a craqué. Les deux filles sont parties au vestiaire, donc ça va reprendre dans 2-3 minutes.
Il y avait pas de caméra là pour la suivre, Sabalenka.
Non, mais il y a quelqu'un. Oui, il y a toujours quelqu'un qui t'accompagne.
C'est vrai. Pour voir.
Non, mais parce que t'as pas le droit normalement de rencontrer tes équipes. Donc t'as toujours quelqu'un à côté de toi qui fait que tu vas juste aux toilettes ou te changer, puisque autant les hommes peuvent se changer sur les cours, les femmes non.
Tu crois pas un pote qui te dit tiens, je te donne une super raquette.
Oui.
Un super Sonic, celle-là. Juste en finale. On est dans le vestiaire sur le poids des caméras. David, alors double champion olympique, toi t'as dû gérer les caméras, je pense, dans ta carrière d'une manière forcément à faire des choix. Ça a été un poids pour toi ça dans ta carrière?
Oui, c'est un poids, c'est une pression, mais si tu veux, il y a caméra et caméra. Il y a caméra journalistique de professionnel, puis t'as la caméra des braconneurs, tu vois, ceux qui ont un portable et qui te chopent dans ta vie classique, privée, ou un moment où justement tu penses être complètement isolé et libre.
Mais ça c'est aujourd'hui, c'était pas le cas pendant ta carrière.
Ça c'est aujourd'hui, ça je l'avais pas ça. Donc c'est une dimension qui est compliquée à gérer parce que autant à l'époque, moi je me souviens, enfin il y avait une éthique journalistique vraiment. Et je crois qu'aujourd'hui on l'a, et c'est à vous de répondre messieurs les journalistes, mais on la perd de plus en plus. C'est-à-dire que dans ce voyeurisme ambiant et dans cette course aux images,
c'est la course à l'image, c'est mon contenu,
c'est la course à l'image,
il y a tellement
ça, voilà, il y a eu des déperditions. Moi, je me souviens, avec tous mes potes journalistes, je dis, et toi, lapsus révélateur, mes potes journalistes. Ouais. Voilà, on se suivait toute notre carrière de journaliste et carrière d'athlète.
Donc t'étais dans une relation de confiance sur ce que tu donnais comme accès.
T'étais dans une relation de confiance parce que le off avait vraiment une valeur. Quand tu disais, bah là, tu poses ta caméra, tu l'éteins, le gars le faisait, le respectait. Enfin, tu vois, c'était un partenariat qui s'était
mis en place.
Non mais aujourd'hui,
bah oui, aujourd'hui, c'est pas le cas.
Non mais toi, par exemple, tu laissais les caméras rentrer dans ton intimité avant un combat.
Ça m'est arrivé, mais c'est moi qui le choisissais et c'était ma décision. C'était pas la décision du journaliste. C'est à toi d'ouvrir et de gérer le flux. Mais aujourd'hui, le flux, tu le gères plus. Tu le gères plus de cette manière-là. Parce que certains de vos confrères sont sans foi ni loi. Ils sont capables de tout pour obtenir ce dont ils ont besoin.
Mais parce qu'aujourd'hui,
ils ont aussi de leur supérieur.
Pour défendre la corporation, s'il faut le faire, mais je sais pas s'il y a moins d'éthique ou plus d'éthique avant ou aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a plus de contenu à créer. En fait.
Oui, mais ce contenu, il n'est pas uniquement fait par des journalistes.
Exactement.
Donc en fait, c'est des gens qui se retrouvent dans le monde médiatique à diffuser des informations médiatiques, mais qui n'ont aucune formation journalistique.
Donc, donc aucune déontologie.
Mais bien sûr, puisque
c'est pas les professionnels.
Mais parce qu'ils n'ont pas le même cursus qu'un journaliste. Et puis il y a aussi l'évolution, exponentielle. Que le sportif lui-même a sa propre audience.
Oui. Alors, mais
à l'époque, on l'avait pas. C'est-à-dire que si on voulait être exposé, il fallait discuter avec un journaliste.
Mais pour recadrer peut-être le sujet, parce que là, à l'Open Australie, ce qui dérange, c'est que ce sont des caméras cachées presque, de surveillance en tout cas.
Elles sont pas cachées, elles sont visibles.
Qui ont vu les images de Coco Gauff.
Ce qu'il faut comprendre.
Mais on n'a pas un caméraman derrière la caméra.
Exactement. Exactement. La première fois on rentre dans les vestiaires, on s'en souvient, c'est les yeux dans les bleus 98. C'est la première fois où le spectateur, téléspectateur, on revit quelque chose. J'ai envie de dire que la bascule, elle s'est faite à ce moment-là, mais c'était donc quelqu'un qui vivait au sein de l'équipe, qui prend des images, qui sélectionne ce qui peut être montrable ou pas. Là, on est arrivé à un point où en fait c'est Big Brother. C'est comme quand on rentre dans le loft. C'est-à-dire qu'à l'Open d'Australie, dans l'enceinte, les joueurs sont dans un loft. C'est-à-dire que vous avez des caméras et vous avez des personnes, des êtres humains qui sont dans une énorme salle avec je ne sais pas combien d'écrans, qui filment tout, puis qui à un moment disent « Ah bah tiens, ça c'est sympa, je vais prendre cette image-là et je vais l'envoyer à la personne qui
c'est
fait
une dérive,
les
conflits digitaux. » C'est une dérive pour toi.
Est arrivé dans une dérive.
Attention.
Elle envoie ça au service communication. Et pourquoi derrière ça? Parce qu'en fait, il y a un service marketing qui a vendu des images. Si vous regardez bien, ces images, elles sont sponsorisées par une marque. Donc en fait, on est en train de monétiser toutes ces images-là. Donc en fait, au-delà de ça, quand on dit que c'est pour les spectateurs et les téléspectateurs, on demande plus, je ne suis pas sûre. Je pense que c'est avant tout le marketing qui utilise ces images-là pour monétiser ça.
Tu as vu l'augmentation des prize money à l'Open d'Australie.
Alors, je vais t'arrêter.
Les joueurs et les joueuses n'ont jamais été aussi bien payés.
Je vais te dire, il y a plus d'argent. Mais c'est pas normal que ça soit ce plus d'argent qui fournisse plus d'argent aux joueurs. Parce que la répartition du pourcentage du prize money des joueurs, déjà, depuis toujours, elle est autour de 20%. Donc c'est pas normal. Déjà, même avant ça, le prize money des joueurs n'est pas en corrélation avec les recettes que génèrent les tournois du Grand Chelem. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un lock-out des joueurs de tennis qui disent, mais attendez, c'est nous qui remplissons les stades, c'est nous qui vendons des droits télé, c'est nous qui faisons à venir des sponsors. Et pourtant, on touche que 20% des recettes d'un tournoi du Grand Chelem.
Demande aux cyclistes qu'ils en parlent.
C'est que la relation de on monétise tout, donc vous avez plus de prize money.
Nous, on
n'en
est pas
bon
à toucher
argument.
20%, on en est à payer un droit d'engagement pour faire le championnat de France. On est très loin.
Je suis désolée pour le cyclisme, mais le tennis génère.
On est dans le vestiaire des grandes gueules du sport. Sur le poids des caméras, tiens, sur WhatsApp. J'ai Martial qui me dit, je sais que c'est devenu soi-disant inévitable pour intéresser le public, mais j'ai horreur de ce nouveau monde où il faut tout voir et tout savoir absolument sur les sportifs. Non mais est-ce que le public est forcément demandeur de ces images
Je pense que les sports, les uns et les autres se mettent en, tout simplement et tout seul en difficulté parce que en fait on veut occuper des parts de marché. Le vélo veut occuper des parts de marché, le tennis va en occuper d'autres et le foot en occupe d'autres. Donc ce qui fait qu'en fait il y a une recherche permanente,
c'est l'escalade.
D'audience, c'est une escalade et il y a une consommation parce que l'image d'aujourd'hui, demain on s'en fout et celle d'après-demain on l'attend avec impatience et dès qu'elle est arrivée on va sur autre chose. Donc il y a une consommation, une surconsommation d'image qui en fait et zapper très rapidement, mais en fait on a occupé le terrain, donc on croit avoir fait un truc extraordinaire.
Oui, et puis le sponsor, lui, il veut un ROI. Le sponsor qui met de l'argent, il veut un ROI. Mais il veut pas juste un ROI de son image sur l'écran. Un retour sur investissement, en fait.
Ah, excuse-nous, on rentre pas comme nous. Ouais.
Mais toi, tu benchmarks comme ça.
Et c'est ce qui explique que quand un sponsor dit, moi je vais investir dans le vélo, je vais investir dans le tennis, tu lui fais un programme marketing. Ben voilà. Mais en plus de ça, tu rajoutes le digital aujourd'hui. Alors, je voudrais tant d'images où on va voir ma marque, où je voudrais sponsoriser tel type de contenu. Et donc en fait, finalement, le sportif n'est plus maître de son image.
Alors, revanche, là, tu évoquais tout à l'heure le documentaire Les yeux dans les bleus, qui avait suivi donc l'équipe de France de Jacquet en 98. Derrière, TF1 avait fait la même chose sur l'équipe de France de rugby en 99, qui va en finale de la Coupe du Monde de rugby. Et c'est un copain à moi qui a fait ce montage, qui a fait ce film. Et malheureusement, ils n'ont pas été champions du monde, donc ça n'avait pas été le succès. Mais depuis, de tous les 4 ans, il a suivi l'équipe de France. Et il te dit qu'il y a un véritable changement. Avant, tu avais une liberté totale. D'ailleurs, le journaliste pouvait aller dans la chambre des joueurs, discuter avec eux, parler de choses, de choses et d'autres, même de sujets un peu sensibles. Aujourd'hui, la com organisée justement par la Fédération française et par l'équipe fait que le mec est obligé de demander des autorisations pour tourner tout. N'importe
oui,
quoi.
Sûr.
En fait. T'as plus du tout la même liberté.
Mais il y a plus en
qu'il a fait avec,
y a plus en plus de demandes aussi.
Avec l'été dernier sur la Coupe du Monde des clubs. Est-ce que tu avais une liberté totale de filmer, de voir les à côté
Après, évidemment, il y a des choses qui sont réglées avant. On donne plus ou moins d'accès ou pas. Je pense à la même chose avec Marc. Tu donnes des limites aux diffuseurs qui veulent voir. Mais d'abord, David, tu voulais rajouter un truc sur le poids des caméras.
Il y a le poids des caméras que les athlètes génèrent eux-mêmes. Parce que aujourd'hui, ils ont tous des chaînes YouTube ou leurs propres réseaux sociaux
dans lesquels ils se mettent en scène.
Et quelquefois, ils se mettent en scène dans des choses qui sont totalement extra-sportives. Et voilà, ça ouvre la porte à ce que on puisse dire pour les autres preneurs d'images. En fait, il a ouvert la porte. On voit tout ce qui se passe chez lui dans sa vie privée, etc., etc. Donc, voilà, c'est fait. Donc, on peut y aller, quoi, tu vois. Donc, cette porte ouverte, à la fois maîtrisée par les athlètes, mais qui l'ouvre, grande ouverte pour certains. Faut pas qu'ils s'en plaignent derrière, lorsqu'ils sont pris à leur insu. Parce qu'on peut tout voir maintenant, et c'est ça qui est inscrit dans la société. C'est-à-dire que maintenant, il y a plus de secret. On peut tout espionner, tout diffuser.
Oui, mais c'est pas la même chose quand c'est une caméra qui te prend, qui prend des images, alors que quand c'est un être humain avec la caméra, ce que je veux dire, c'est que si, dans le cas de Coco Gauff, pour reprendre l'exemple, si ça avait été comme il peut y avoir des community managers ou des GRI, donc des caméramans qui suivent et qui vont capter des images, je suis certaine que l'être humain, quand il voit Coco Gauff, qui est dans un état de nerf, qui cherche un endroit juste pour aller briser sa raquette, cette image, il ne l'aurait pas prise.
Mais surtout,
il y aurait juste un tout petit peu de décence.
Les gens qui prennent la décision de diffuser ou pas cette image, ils n'ont plus de...
Ils n'ont plus de filtre. Il n'y a plus de filtre.
Ils se disent, on peut faire puisqu'ils le font.
C'est un contenu qui va faire beaucoup de vues, donc il faut l'utiliser. Mais juste, on n'en a pas parlé, alors que finalement, c'est peut-être le sujet central. C'est la santé mentale, en fait, des athlètes dont on parle beaucoup depuis quelques années maintenant. Au final, c'est ce que dénonce Coco Gauff et aussi Gaziantep. En fait, on a plus un endroit pour exprimer notre frustration, notre colère, comme ça. Donc, c'est important de protéger ça, Marc. Je sais pas, toi, par exemple, quelle limite pour protéger la santé mentale de tes coureurs, t'as pu donner quand il y avait des caméras, de Netflix.
Quand il y avait Netflix, il y avait un plan préétabli pour la journée, donc on savait à quel moment ils allaient faire telles images et telles interviews par rapport à la situation.
Quand Thibaut abandonne, tu dis pas, tu dois peut-être dire à France Télévision, attendez un peu peut-être. Il y a quand même une conscientisation qu'il faut préserver un peu l'athlète.
Moi, je garde un très bon souvenir du tournage avec les gars de France Télé sur cette édition du Tour de France avec Thibaut Pinot. ça s'est passé en respect et en intelligence et en confiance.
C'est ça la clé
oui,
de tout,
en fait. L'image choc, enfin la scène choc, c'est quand tu essayes de consoler Thibaut le soir après ça,
dans la chambre,
après son abandon. L'image est très forte et les phrases que tu lui dis, ça a vraiment dressé les poils sur les bras de tout le monde ce jour-là. Mais ça aussi, c'était un accord avec toi.
On était en fin de Tour de France et on était dans une relation avec Brice Bobby. On était dans une relation de confiance. Parce qu'il n'avait pas trahi notre confiance dans les jours précédents et dans les instants précédents. Donc en fait, on était dans quelque chose de
d'humain
et de naturel. Quand je me suis retrouvé dans la chambre avec Thibaut et que Brice était là, ni Thibaut ni moi, on a c'était vu en fait, on a capté. On savait qu'il était là, mais ça ne nous gênait pas.
Parce que le mec a su se faire oublier.
Parce qu'il avait su s'intégrer à la vie de l'équipe. En fait, tout se passe là. Après, avec Netflix, moi j'ai eu des bons moments aussi. Ça s'est globalement très bien passé avec Netflix. Le problème avec Netflix, c'est qu'ils sont peut-être dans certains moments, non pas dans l'intimité. Ils n'étaient pas trop sur là-dessus. Ils étaient plus dans les relations extérieures qu'on pouvait avoir avec les concurrents.
Ils essayaient de monter
l'histoire de la bière avec Jumbo Visma, des trucs comme ça. Mais là, j'ai envie de dire, in fine, ces histoires-là, c'est pas ce qu'on retient et c'est pas très grave.
C'est pas ce qu'on retient, tu crois?
Non. Mais sur le coup, mais j'ai surjoué aussi la situation j'ai dit, je vais retourner le truc dans mon sens, mais. Ça fait partie de la petite histoire. Et in fine, au bout du compte, ça n'a pas une gravité extrême. Voilà. Par contre, situation
c'est
avec
quelque
Thibaut...
chose dont on se souvient plus tard. Ça n'a pas une gravité extrême, tu as raison. Tout le monde s'en souvient.
On se marre aujourd'hui.
Mais ce qui est important aussi de rappeler, c'est que les sportifs, vous tous, vous avez aussi besoin des caméras. D'une certaine façon.
Alors, on a besoin et on n'a pas besoin. Il y a quand même des paradoxes. Moi, je trouve que. Je le dis parfois à certains de mes coureurs, je dis, mais arrêtez de balancer votre vie sur les réseaux sociaux, sur Strava et autres. Arrêtez! Vous donnez de l'information à la, moi je suis plus sur le côté sportif.
Concurrence.
Vous donnez de l'information à la concurrence. Arrêtez!
Oui, mais d'un autre côté, quand Netflix a fait deux saisons de suite sur les équipes engagées sur le Tour de France, ça a donné une surface médiatique bien supérieure au vélo.
Oui,
ça a été une formidable publicité.
Pourquoi Netflix n'a pas continué?
Parce que c'était pas assez rentable pour eux.
Parce que aussi, je pense qu'on n'était pas un sport vraiment adapté à Netflix.
Exactement, ils n'ont pas trouvé un soap, une série qui va être.
Dans le Tour de France, toutes les équipes, petites, grandes ou moyennes, on est tous dans un timing. On essaie de faire en sorte que la vie de l'équipe dans la journée se passe sans anicroche. Et en fait, les seules perturbations qu'il peut y avoir, c'est une victoire potentielle. Alors là, on est dans une forme d'euphorie, donc j'ai envie de dire c'est assez facile à dérouler. Mais le reste du temps, on est dans la maîtrise du temps et dans la maîtrise des situations. Donc en fait, pour une caméra de Netflix, on est l'envers de ce qu'ils recherchent.
Oui.
Parce qu'en fait, ils veulent monter en épingle quelque chose. Ils veulent de la sensation, ils veulent de l'inattendu. Alors que nous, en fait, la vie quotidienne d'une équipe, c'est de faire quelque chose qui soit linéaire.
Et
si ça peut être linéaire pendant trois semaines, c'est encore mieux. Donc
les joueurs n'ont pas voulu livrer des choses et ils n'ont pas voulu se monter les uns contre les autres.
Il n'y a qu'un seul sport qui continue et pour qui ça marche bien, c'est la Formule 1.
Mais c'est plus facile.
La Formule 1, c'est un monde bling bling qui va autour du monde où il y a toujours des choses à raconter aussi avec beaucoup d'argent.